Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Le 6 avril 1994, à 20h30, l'avion du président rwandais explosait en plein vol, victime d'un attentat. Cet événement fut le détonateur de ce qui se préparait depuis longtemps, à savoir le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Rendez-vous compte, en 8 semaines, ce sont entre 500 000 et 800 000 personnes, certains parleront d'un million de morts, qui furent assassinées. Comment ces deux ethnies, et je mets des guillemets à ethnie, puisque au cours de notre émission, nous verrons que les Rwandais ont été classés sous cette formule très récemment par les colons. Comment donc ces ethnies, qui vivaient en bonne intelligence jusque dans les années 50, ont commencé à rejeter leurs voisins jusqu'à vouloir leur mort? Pourquoi les casques bleus sont-ils partis la veille du génocide, en avril 94? Comment expliquer que l'ONU, les Belges et les Français aient fait la sourde oreille lorsque des informateurs les mettaient en garde contre l'arrivée imminente du génocide au Rwanda? Et quel a été l'après-génocide pour les victimes, mais également pour la communauté internationale qui s'est retrouvée gênée après n'avoir rien fait? Pour aborder ce sujet, pas si éloigné de nous, deux invités sont dans le studio de Canal Académie, Yves Ternon et Georges Bensoussan. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au studio de Canal Académie pour vous présenter. Yves Ternon, vous êtes docteur en histoire à l'université de Paris 4 à la Sorbonne. Vous étiez d'abord chirurgien, interne des hôpitaux de Paris, et puis ensuite vous vous êtes consacré à la recherche sur les crimes contre l'humanité et tout particulièrement sur les génocides juifs, arméniens et du Rwanda, à propos desquels vous avez publié de nombreux ouvrages, et notamment « Guerre et génocide au XXe siècle, architecture de la violence de masse » paru en 2007 aux éditions Odile Jacob. Georges Bensoussan, vous êtes historien, rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah et responsable éditorial au Mémorial de la Shoah. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Un nom impérissable » paru aux éditions du Seuil en 2008. Et je précise que la revue d'histoire de la Shoah, dans le numéro de janvier-juin 2009, traite du Rwanda à l'occasion des 15 ans du génocide et qui s'intitule donc « Rwanda, 15 ans après, penser et écrire l'histoire du génocide des Tutsis ». Alors cette émission n'a pas pour but d'activer encore la polémique sur la part imputable à la France, à la Belgique, à l'ONU, au gouvernement rwandais, mais de démêler les fils de cette toile d'araignée qui s'est tissée autour des Tutsis. Et pour commencer, je reprendrai le proverbe africain qui dit ceci: lorsque la mémoire va ramasser du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Pour débuter, Yves Ternon, Georges Bensoussan, existe-t-il une histoire ou des histoires du génocide au Rwanda? Existe-t-il plusieurs versions? Georges Bensoussan.
Il n'y a qu'une réalité et il y a plusieurs interprétations de la réalité. Parler de pluralité de réalité, c'est ouvrir la voie au négationnisme. Je ne parle pas du révisionnisme, là, mais carrément du négationnisme. Alors que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a eu une bataille de Verdun, mais les historiens sont en désaccord pour interpréter la bataille de Verdun, ce pourquoi elle a eu lieu, pourquoi le commandement allemand a voulu s'acharner sur ce saillant du front français, comment et pourquoi la défense française a résisté, combien de temps a duré la bataille de Verdun, 5 mois, 8 mois, 10 mois, etc. Mais tout le monde est d'accord au moins, au-delà de ces querelles d'interprétation, pour dire que la bataille a eu lieu. Donc il n'y a pas plusieurs versions du génocide, il y a plusieurs interprétations du génocide, mais il y a au moins unité sur le fait qu'il a eu lieu.
Dans la revue d'histoire de la Shoah, donc Rwanda 15 ans après, penser écrire l'histoire du génocide des Tutsis, il y a bien sûr l'écriture de nombreux articles par plusieurs historiens. Est-ce que justement les regards divergeaient sur cette notion, sur cette question du génocide?
Sur la réalité des faits, non. La question, là, il n'y a pas de divergence. On sait bien qu'il y a une toute petite partie de nos contemporains qui nient la réalité du génocide en renvoyant dos à dos les bourreaux et les victimes en parlant d'un double génocide, des Tutsis et des Hutus. En réalité, il n'y a qu'un seul génocide, c'est celui des Tutsis par les Hutus. Mais il peut y avoir des divergences d'interprétation au sein même de la revue sur les racines, par exemple, du génocide, la façon dont il a été mené, le rôle de l'ONU, par exemple, le rôle de Roméo Dallaire, le rôle des troupes de l'ONU, le rôle du secrétaire général de l'ONU. Là-dessus, oui, il peut y avoir des divergences.
Et nous allons y venir au cours de cette émission. Débutons par un peu d'histoire bien antérieure aux événements de 1994. Comme je le disais au début de cette émission, les Tutsis, les Hutus, les Twa vivaient en bonne intelligence, mais il semble qu'ils vivaient en clans, pas catégorisés sous ces ethnies, Tutsi, Hutu et Twa. Alors, est-ce que les hostilités ont débuté avec l'arrivée des colons ?
Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est une divergence de compréhension entre les Européens qui ont toujours eu une vision ethniste de l'Afrique et une vision très simplifiée, et leur découverte d'une situation historique très complexe dans le royaume du Rwanda. Très complexe qu'ils n'ont pas su ou qu'ils n'ont pas voulu interpréter. Mais le Rwanda est un royaume lorsque les premiers colons arrivent à la fin du XIXe siècle. Ce royaume a sa propre histoire, sa propre extension de territoire. Et à l'intérieur de ce royaume, il y a donc des groupes différents, plus exactement des clans ou des lignages différents, qui vont s'ordonner autour de ce personnage clé qui est l'intermédiaire entre la divinité et les humains, qui est le roi. Et donc, il y a à l'intérieur du royaume un certain nombre de responsabilités, disons de ministères pour faire européen, qui sont attachés à un certain nombre de clans ou de lignages ou de personnes qui se le transmettent de génération en génération. C'est ainsi que, très progressivement, dans cet ensemble, apparaissent des notions qui sont celles d'abord de Tutsi, qui s'attache essentiellement aux principaux responsables au sein du royaume, mais aussi aux principaux responsables militaires, de Hutu, qui veut dire pauvre en Kinyarwanda, car c'est la langue commune à tous les Rwandais, alors et maintenant, et qui avait aussi des responsabilités dans le royaume, mais souvent des responsabilités subalternes. Et puis, tout au bas de l'échelle sociale, un petit groupe qui était d'ailleurs reconnu physiquement à sa petite taille, puisqu'on les considérait pour les Européens comme des pygmées, qui s'appelait les Twa, à peine 1% de la population, qui étaient traditionnellement des potiers, des chasseurs, des cueilleurs. Donc, une distinction à l'intérieur du royaume qui va aboutir à quelques petits conflits intérieurs, mais qui, lorsque le royaume est en guerre, disparaît. Tout le peuple s'unit derrière le roi pour combattre, car les combats sont incessants. Donc voilà cette réalité que découvrent les colons. Alors, je peux continuer pour dire ce qui va se passer après ?
Bien sûr, Ternon.
Alors, après, il y a un bref intermède de colonisation allemande qui va durer grosso modo de 1895 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis au cours de la Première Guerre mondiale, les Belges venus du Congo belge vont chasser les quelques colons allemands qui sont là et obtiennent un mandat moins important que les grands mandats que va délivrer la Société des Nations ou que vont délivrer les accords de paix, obtiennent un mandat sur un ensemble qui est le Rwanda-Urundi, c'est-à-dire l'ensemble du Rwanda et du Burundi. Et à ce moment-là, ils sont déjà accompagnés par les Pères Blancs. Les Pères Blancs évangélisateurs qui voient dans ce territoire du Rwanda un magnifique terreau pour développer la religion catholique. Et donc, on va assister à un certain nombre de conversions, mais aussi au transfert de responsabilités à une élite que l'on choisit parmi les Tutsis. Ce n'est pas l'ensemble des Tutsis qui sont choisis comme élite, c'est à peu près 10% des Tutsis qui vont être désignés pour occuper les postes de responsabilité, chefferie, sous-chefferie, et qui vont servir en quelque sorte d'intermédiaire entre le colonisateur et le peuple.
Parce qu'ils sont vus comme supérieurs ?
Parce qu'ils sont effectivement perçus comme différents par la taille, ce qui est relativement vrai dans la mesure où à travers ces lignages il y avait des mariages interfamiliaux qui créaient effectivement des différences d'aspect, différents peut-être aussi par certains caractères, mais on est au stade de l'anthropologie dominante où l'on veut vraiment mesurer les crânes et le reste, mais différents aussi par leur situation sociale car la plupart sont des éleveurs. Et d'ailleurs, on va, au cours de la colonisation, spécifier les Tutsis comme éleveurs à partir d'un certain nombre de vaches. La vache étant le repère de la richesse pour un paysan rwandais et les Hutus étant plus souvent des cultivateurs. Mais les variations de fortune peuvent amener des Hutus à devenir Tutsis et des Tutsis à devenir Hutus. Donc, dans les années 20, création d'une élite à qui on confie tout le pouvoir et que l'on nomme Tutsi. Et le problème, c'est qu'on va la percevoir non pas à travers cette histoire complexe que j'explique, mais à travers une vision simplificatrice d'ethnie. Donc on va fabriquer une ethnie. Il y aura d'un côté les Tutsis, de l'autre côté les Hutus, enfin les Twa. À partir donc de toutes ces nuances que j'ai essayé d'évoquer, on se trouve dans les années 20, et surtout dans les années 30, à une réécriture de cette réalité à travers une histoire fabriquée où l'on imagine que les Tutsis ne peuvent pas être des locaux, qu'ils viennent du Nord, on les appellera même les Juifs de l'Afrique, qu'ils ont descendu avec leurs troupeaux et qu'ils sont venus coloniser, hein, en tout cas s'implanter dans ce territoire rwandais où il y avait des paysans Hutus qui avaient succédé d'ailleurs aux Twa qui étaient là depuis des temps immémoriaux. Donc une ethnisation, une fabrication des ethnies qui va être matérialisée, et c'est là que la catastrophe commence.
Par une carte d'identité.
Par une carte d'identité. Toute personne au Rwanda est marquée par sa carte d'identité. Alors, on demande à chacun de se définir Hutu ou Tutsi, si bien que chacun va se choisir, ou être choisi selon les cas, comme Hutu ou Tutsi, et intégrer une sorte d'identité ethnique qui ne correspond pas à une réalité sociale. Vous voyez la complexité du problème. Mais c'est à travers cette simplification que va vivre le développement du colonialisme belge au Rwanda. Donc je m'arrête à cette période, disons, des années 30, où le roi est chassé d'ailleurs parce qu'il ne veut pas se convertir au catholicisme, où son fils est repris comme roi et se convertit au catholicisme, entraîne la majorité de la population dans ce mouvement de conversion. Donc, le colonialisme a fait coup double, conversion et création d'une élite qui permet l'exploitation coloniale du Rwanda.
Georges Bensoussan, vous parlez de racialiser les consciences.
Oui, parce que tout ce que vient de résumer de façon particulièrement convaincante, Yves Ternon, sur toute cette racialisation du social, c'est un peu ça, l'expression que vous reprenez, racialiser les consciences. La racialisation du social, à laquelle on aboutit au Rwanda, ça donne une situation de racisme sans race. C'est-à-dire que les Européens, imbus de leur vision raciale du monde du XIXe siècle, ont projeté leurs schémas mentaux sur une vision africaine qui leur était complètement étrangère. Et c'est cette projection-là qui a produit la catastrophe qui commence en 1959 avec l'indépendance du Rwanda. C'est-à-dire des catégories de pensée qui étaient étrangères à l'Afrique ont été importées en Afrique et elles ont racialisé les consciences, elles ont inscrit les individus dans des schémas raciaux qui ressemblent étonnamment, effectivement, à l'exclusion du juif dans toute la longue histoire de l'Europe. Et ce n'est pas pour rien qu'on a appelé les Tutsis les juifs de l'Afrique. On a fait d'eux des éléments halogènes, totalement étrangers à la réalité locale, alors qu'en fait, ils sont complètement incrustés dans la réalité locale et ils parlent la même langue et partagent exactement la même culture que les Hutus. Il n'y a pas de langue différente.
Alors, en 1959, vous lisiez une première série de massacres. En 1965, une deuxième série de massacres avec cette notion d'autodéfense, de légitime défense. C'est-à-dire que les Hutus se défendent contre ces étrangers dont vous parliez, Yves Ternon.
Oui, il y a quand même une nuance à apporter. C'est la prise de conscience par la Belgique qu'au moment où les indépendances se dessinent au Rwanda, ces indépendances auront pour dirigeants des Tutsis. Et que les Tutsis seront majoritaires, sont minoritaires, puisqu'ils représentent, j'ai oublié de le préciser, environ, dans cette classification ethnique, 15% de la population, et donc qu'un vote démocratique amènera automatiquement les Hutus au pouvoir. Donc toute l'habileté de la Belgique est à ce moment-là de renverser en quelque sorte le discours et de persuader à travers d'ailleurs les prêtres au Rwanda qui sont maintenant souvent de culture belge alors que souvent ils étaient français ou suisses, de persuader les Hutus qu'ils ont été victimes d'une persécution sociale, qu'ils ont été, c'est un discours marxiste que reprennent les colonisateurs et les pères blancs, vous avez été des exploités, libérez-vous et reprenez le pouvoir. C'est ainsi que progressivement on va former dans la hâte, en fait, une élite Hutu. Et ça va être matérialisé en 59 par la création d'un parti, le parti Parmé Hutu, dirigé par Grégoire Kayibanda, qui va être le premier président de la République quand l'indépendance du Rwanda et du Burundi, ce seront la même chose, il sera donc président du Rwanda, seront décidés en 1961. Donc là, on a un renversement, mais dès qu'il y a création du Parmehutu, commencent les violences. Et des violences qui se soldent par des massacres terrifiants.
On marque une courte pause si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Retrouvez sur Canal Académie nos émissions en compagnie des académiciens professeurs au Collège de France. Le paléontologue Yves Coppens, la juriste Mireille Delmas-Marty, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie ou encore l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Quelques noms d'une longue liste dont vous pouvez télécharger librement les émissions sur canalacademie.com.
Suite de notre émission Regards croisés en compagnie de Georges Bensoussan et Yves Ternon pour évoquer le génocide du Rwanda, des événements antérieurs qui ont provoqué ce génocide en 1994. Yves Ternon, juste avant la pause, vous évoquiez bien sûr les événements de 59 avec une série déjà de massacres. Il ne faut pas non plus oublier les événements de 65 et puis en 1973 l'arrivée au pouvoir du président Habyarimana. Donc peut-être Yves Ternon pour commencer sur ces événements et ensuite Georges Bensoussan.
Bien, ces événements pour les Tutsis sont doubles. C'est d'une part des massacres qui entraînent des mouvements d'émigration très importants dans les pays voisins et singulièrement en Ouganda, qui est le siège des troubles politiques que vous connaissez avec Emile Nada, Obote, etc. Mais le deuxième élément, c'est quand même une discrimination persistante des Tutsis dans la vie quotidienne au Rwanda. Les Tutsis sont victimes d'exclusion permanente de l'enfance jusqu'à la vieillesse et les témoignages de survivants font toujours état, pour les enfants qu'ils étaient alors, de cette exclusion, de cette violence qu'ils subissaient à l'école ou dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est un événement important.
Avec déjà ce vocabulaire très...
Avec déjà un vocabulaire qui va se concrétiser...
Très raciste, en fait, de
absolument,
cafard contre
l'art. Absolument, très raciste, avec le mot de cafard qui apparaît très tôt avec les premières volontés de retour des émigrés. Donc le problème est vraiment créé par le fait qu'une importante émigration à majorité Tutsi, il y a quand même quelques Hutus qui sont victimes de dissensions politiques et qui vont disparaître, qui vont aller à l'étranger. Donc ces émigrés Tutsi veulent revenir. Le retour leur est refusé. Et il se trouve que ces émigrés Tutsi vont, puisqu'ils sont aussi un peu exclus en Ouganda, participer au mouvement révolutionnaire qui est dirigé par Museveni contre le gouvernement Obote. Si bien qu'il forme un groupe de soldats extrêmement compétents et bien armés.
Le FPR.
Le Front Patriotique Rwandais, qui va demander le retour. Comme ce retour lui est refusé, il va se le procurer. Et c'est donc l'événement clé que l'on peut considérer comme le passage d'une étape menaçante à une étape absolument déterminante du futur génocide, qui est la date du 1er octobre 1990, où le Rwanda se trouve agressé, si je puis dire, par des Rwandais émigrés venus avec le FPR. Et c'est à ce moment-là que le président Habyarimana va commencer à faire jouer cette demande d'aide d'un pays voisin qui n'est plus alors la Belgique, d'un pays européen qui n'est plus alors la Belgique, mais la France. Et donc sa faible armée va être rapidement renforcée par les personnes envoyées donc de France.
Des militaires français.
Des militaires français, différents groupes, en particulier de parachutistes, qui vont armer, préparer, encadrer l'armée rwandaise et en faire une armée puissante et à la fois ruineuse pour le pays, car ce pays dont l'économie est assez fragile et va être fragilisée et par la croissance démographique et par la chute du cours du thé et du café, va se trouver donc dans une situation très précaire qui va faciliter justement l'appel au meurtre.
Alors justement, arrêtons-nous quelques instants sur justement ce décor économique. Peut-être préciser que c'est un pays dont la démographie est galopante, c'est un peuple qui a faim, il y a une croissance au niveau de la délinquance, c'est un peu l'économie de survie aussi dans ce pays, Georges Bensoussan.
Oui, il y a un facteur qu'on ne prend pas assez en compte dans toutes les situations génocidaires, c'est le facteur démographique. Ça ne justifie rien, ça n'excuse rien, ça permet d'expliquer que lorsqu'il y a à un moment donné un ressenti d'une surcharge d'hommes, il peut y avoir un passage à l'acte vers le massacre. Pas forcément vers le génocide, mais vers le massacre. Dans la situation de l'Europe de la Seconde Guerre mondiale, les questions démographiques chez les démographes nazis, chez tous ceux qu'on appelle les architectes de l'extermination, jouent un grand rôle dans leur volonté de réorganiser l'Europe de l'Est, l'Europe orientale. Ils estiment, eux, qu'il n'y a pas assez de nourriture pour le peuple allemand, qu'il y a une surcharge démographique des peuples balkaniques et des peuples d'Europe de l'Est en général, des Slaves en particulier, et ils éliminent, sur le papier en tous les cas froidement, pratiquement plus de 30 millions de Slaves, c'est du moins dans leur plan qu'on appelle le Generalplan Ost. Donc ces questions démographiques sont l'obsession des futurs génocideurs. Et on a tort de négliger la démographie quand on analyse cela, parce que la démographie a mauvaise presse. Elle passe pour une discipline toujours plus ou moins liée aux assassins. Mais on est obligé aussi de comprendre comment les assassins raisonnent si on veut savoir ce qu'est une situation pré-génocidaire. Ça, c'est important. Au Rwanda, on est dans une situation de surcharge démographique. On a la plus forte natalité du monde, ou du moins l'indice de fécondité le plus fort du monde par femme. C'est pratiquement 8 enfants par femme au Rwanda, dans un tout enfant général en moyenne, dans l'Afrique des Grands Lacs. Hein. C'est-à-dire, le Rwanda en fait partie, bien sûr. Et il y a effectivement un manque de terres qui est criant et qu'on va revoir comme un fil conducteur du génocide parmi les mobiles des tueurs durant le printemps 1994. Ils s'emparent d'abord et avant tout des terres des Tutsis. Il y a une soif de terre extraordinaire. Alors encore une fois, je précise, ça n'excuse rien, ça ne justifie surtout rien, ça tente simplement d'éclairer une réalité.
Et je crois que c'est ce qui explique la raison pour laquelle le président refuse le retour de ces Tutsis qui veulent revenir au pays. Yves Ternon.
Oui, alors cette guerre de 1990, du 1er octobre 1990, que l'on ne peut pas vraiment appeler une guerre civile parce qu'il n'y a pas de division à l'intérieur du pays, va pourtant créer l'idée d'une guerre civile. C'est-à-dire que on va dédoubler le visage de l'ennemi. Il y a l'ennemi extérieur, le RPR, et à l'intérieur, les Tutsis sont déclarés, non plus seulement des cafards, des Nyenzi, comme on dit, mais sont déclarés des ennemis intérieurs. Et à partir du moment où on les accuse de soutenir le FPR, donc de miner le pouvoir et l'État rwandais, on va se trouver dans une dialectique qui va permettre d'instituer le fondement même du génocide, c'est-à-dire le « eux » ou « nous », par une propagande intense menée en particulier par la distribution à toute la population de postes de radio, dans la langue qui est la leur, c'est-à-dire le kinyarwandais, des radios, puis une radio-télévision des mille collines, dite des mille collines, parce que le Rwanda est un pays de collines, va diffuser un appel au meurtre. Appel au meurtre qui est aussi, qui est avant d'ailleurs relayé par des journaux, en particulier le journal Kangura, qui publie les 10 commandements du Hutu pour tuer les Tutsis. Donc on est dans une vision claire et nette de volonté de tuer, ce qui n'est pas le fait des autres génocides qu'on a pu observer avant, où la volonté de meurtre était plus ou moins déguisée et formulée autrement, en tout cas au niveau de la population, du paysan commun, ou de l'ouvrier commun. Donc là, cet appel au meurtre va créer une situation qui est manifestement pré-génocidaire, donc tous les explosifs sont là, il manque que le détonateur, où on explique aux Hutus que s'ils ne tuent pas les Tutsis, ils vont être tués par les Tutsis. Et que tuer les Tutsis, ce n'est pas simplement tuer un homme Tutsi qui pourrait être armé, c'est extirper toute entité Tutsi, jusque de le ventre de la mère, qui porte un enfant Tutsi, parce qu'elle peut être Hutu, mais si le père est Tutsi, il faudra tuer l'enfant à naître. Vous voyez l'intensité qui est créée dès le début, dès la fin de 93 et dès le début de 94, et dont sont absolument conscients les médias internationaux. Il y a une émission en France à Antenne 2 où Jean Carbonard, dirigeant de survie, vient d'expliquer que le génocide va éclater, où ils font en larmes devant donc tous les téléspectateurs et où, en fin de compte, ça n'est pas vraiment relayé par la presse. Cette menace n'est pas perçue dans son immédiateté.
Et nous allons y venir dans quelques instants. Auparavant, l'État se prépare, hein, les dépenses militaires augmentent de 15 à 70 %. Elles représentent de 15 à 70 % du budget national du pays. Et puis le nombre de militaires aussi augmente. Des indices qui, justement, vous le disiez à l'instant, Yves Ternon, préparent au génocide. Comment les pays extérieurs reste-t-il aussi opaque à tout ce qui se passe devant
eux ? C'est l'une des questions principales, dans le fond, de cette situation pré-génocidaire. Tous les signes annonciateurs étaient vus, étaient visibles, étaient dénoncés par certains. Yves Ternon l'a rappelé à l'instant. Il y a la hausse du budget militaire dont vous venez de parler. Il y a cet achat inexpliqué, quelques mois avant le génocide, de 500 000 machettes en Chine. C'est totalement surdimensionné par rapport aux besoins du pays. Et il y a surtout, ce qu'Yves Ternon a rappelé tout à l'heure, un discours génocidaire de la radio Mille Collines, la revue Kangoura et autres, qui diabolise, qui animalise le Tutsi, qui en fait un cancrelat, un cafard bon à exterminer, parce qu'un cafard, ça se tue pas, ça s'extermine, ça s'écrase du talon, etc. Il y a donc tout ce discours qu'on ne prend pas au sérieux en Occident, qu'on ne prend pas au sérieux en général, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que dans toutes les situations génocidaires que nous avons vécues au XXe siècle, au moins dans les trois plus caractéristiques, le discours génocidaire était là, présent, bien avant, et on n'a pas voulu en tenir compte. Avant le génocide des Arméniens, vous avez un discours génocidaire turc qui est évident et qui a été de surcroît précédé par de grands massacres, ce qu'il y a toujours. Un génocide, c'est comme un tremblement de terre. Il y a des signes annonciateurs. Il y avait de grands massacres en 1894. Dans le cas du génocide juif, vous avez un discours génocidaire qui est une évidence, mais à l'échelle de toute l'Europe et pas seulement à l'échelle de l'Allemagne. Vous voyez le discours roumain, par exemple, et dans le cas du Rwanda aussi. Donc la grande question, c'est celle-là. Non seulement une question sur le passé, pourquoi n'a-t-on rien fait, n'a-t-on pas allumé le signal de l'incendie, comme disait Benjamin, mais aussi pour aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui les situations pré-génocidaires autour de nous, et il y en a, sur lesquelles on ferme les yeux.
Yves Ternon.
Oui, voilà, parce que ce qu'a dit Georges est absolument essentiel, et je crois que c'est vraiment ce qui nous anime dans la revue d'histoire de la Shoah, et ce qui explique l'importance que nous avons attachée à ce numéro, c'est que, quand on se penche en connaissance de cause sur ces trois génocides, qui ne sont pas, disons clairement, uniquement les génocides qui ont eu lieu, mais ceux que nous connaissons, et que nous connaissons tous les deux, bien, si vous voulez. Donc nous sommes à même de comparer et de comprendre que dans cette première partie que nous venons d'envisager, où nous venons d'envisager l'analyse d'un processus, ce processus génocidaire s'étend sur des décennies. Ce sont des signes annonciateurs qui sont évidents quand on les connaît. Et on pourrait se reprocher, au fond, de ne pas avoir assez écrit l'histoire des génocides qui ont précédé le Rwanda, le génocide des Tutsis au Rwanda, dans cette perspective, justement, de caractère commun d'une menace génocidaire, en dépit de situations historiques, géographiques, temporelles, entièrement différentes. Et c'est dans ce sens que la convention qui a été votée en 1948 à l'ONU par une majorité absolue pour la prévention et la répression du crime de génocide pourrait prendre son sens dans le cadre du mot prévention. Prévenir un génocide, c'est justement comprendre ces signes annonciateurs, ces menaces. Sans ça, ce n'est pas la peine d'essayer et de répéter tout le temps, plus jamais ça. Il faut saisir les menaces qui, au XXIe siècle, sont évidentes. On ne va pas les redire, mais c'est nous, historiens, nous avons la responsabilité de les saisir et de les transmettre à ceux qui ont la possibilité d'agir, c'est-à-dire les hommes politiques.
Venons-en, si vous le voulez bien, à 94. Donc le 6 avril 1994, vous parliez du président Habyarimana, président Hutu, qui se fait assassiner dans son avion, il y a un attentat, et il explose en plein vol. Ce sont les Hutus eux-mêmes qui commettent cet attentat.
Alors,
c'est le détonateur dont vous parliez à l'instant.
Alors là c'est très simple. Il y a un débat qui ouvre le champ du négationnisme sur le fait que l'enquête n'a pas été délibérément menée, parce que c'est le élément déclencheur du génocide, donc on n'a pas délibérément mené l'enquête dans le sens objectif où elle aurait dû être menée. Aucun enquêteur actuellement, aucun policier, si je puis dire, ou juge, n'est capable de donner une réponse précise sur les responsabilités de cet attentat. La fameuse enquête du juge Bruguière, excusez-moi de venir dans l'actualité, a été complètement explosée récemment par le fait que ses principaux témoins se sont rétractés. Donc on a là le lit du négationnisme, mais sur le plan de l'enquête policière, nul ne pourra vous dire avec certitude qui a fait exploser avec deux missiles solaires l'avion du président Habyarimana, qui contenait aussi le ministre de la Défense et le président du Burundi voisin. Donc ce qui est certain, c'est que à partir de cette situation qui logiquement était à l'intérêt du Hutu Power. Le Hutu Power est cette fraction dure des différents partis Hutu qui sait qu'il va être exclu par les accords d'Arusha qui viennent de se signer une nouvelle fois en Tanzanie, va être exclu du processus démocratique qui s'annonce. Il a tout intérêt à faire exploser cette situation et donc l'avion. Mais ce n'est pas une preuve.
Georges Bensoussan.
Un mot sur l'attentat du 6 avril. Ce qui est étonnant dans cette affaire du 6 avril, de l'attentat, c'est que quand bien même l'attentat aurait été commis, pure supposition, pure hypothèse de ma part, par des hommes du FPR, c'est-à-dire par des Tutsis, ça ne change rien à la nature des faits qui suivent, à savoir qu'il y a bel et bien un seul génocide, celui des Tutsis par les Hutus, et que ce génocide a été prémédité, qu'il a fallu une occasion, une étincelle pour déclencher, pour mettre le feu aux poudres, parce qu'un génocide, ça ne se prépare pas en deux heures, car qu'est-ce qui se passe juste après l'attentat qui a lieu dans la soirée du 6 avril 1994 ? C'est que dans les deux heures qui suivent, dans les rues de Kigali, les tueurs Hutus sont déjà là, listes en main, pour aller frapper aux portes des Tutsis et les massacrer les uns après les autres. Donc ce quadrillage de la ville, cette préméditation, montre que l'attentat contre le président par quel que soit l'auteur de l'attentat en question, n'était que le prétexte attendu pour passer au stade ultime des tueries. C'est un peu, si vous voulez, cet argument selon lequel l'attentat aurait été perpétré par les hommes du FPR, donc il y aurait eu double génocide, Hutu contre Tutsi, Tutsi contre Hutu. Ça me fait penser un peu à cet argument des négationnistes concernant la Shoah qui consiste à dire Hitler, la Seconde Guerre mondiale a commencé en Europe le 1er septembre 1939, on le sait. Le 5 septembre, le président du Congrès sioniste mondial, Chaim Weizmann, a déclaré que, vu la situation désormais, malgré le livre blanc anglais sur la Palestine, tout juif dans le monde devait se considérer comme étant en guerre avec l'Allemagne nazie. Et les négationnistes ont conclu, vous voyez, ce sont donc bien les juifs qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc qu'ensuite l'Allemagne se soit vengée, se soit défendue, c'était tout à fait compréhensible.
Les victimes doivent rester dans le rôle de victime et surtout pas réagir.
On en est à peu près à ce niveau d'absurdité.
Je vous marque de...
Ça me fait penser aussi, je rebondis, à la manière dont est déclenché le génocide des Arméniens, où on a attendu un mouvement d'autodéfense à Van, où les Arméniens risquaient d'être massacrés et ont quand même pris les armes, pour dire que les Arméniens se sont révoltés sur le front de guerre. À ceci près, c'est que la nouvelle n'était pas véritablement arrivée dans les milieux arméniens, mais était seulement arrivée dans les antennes gouvernementales. Et donc, on a déclenché le 24 avril l'arrestation, qui est la première étape du génocide des Arméniens. Donc, il y a une dialectique, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, négationniste, qui fait que l'étincelle, on peut toujours discuter qui l'a provoqué, mais comme l'étincelle provoque le résultat de la destruction, à qui cela profite ?
Et une manipulation où la victime se retrouve bourreau. On marque une deuxième pause, si vous le voulez bien, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite. Retour dans notre émission Regards croisés en compagnie de nos deux invités Georges Bensoussan et Yves Ternon avec qui nous discutons du Rwanda à l'occasion du triste anniversaire des 15 ans du génocide. C'était donc en 1994, en l'espace de 8 semaines. Les chiffres d'ailleurs sont divergents entre 500 000 et 1 million de personnes assassinées. Je vous regarde Yves Ternon parce qu'on n'a pas de chiffre exact en fait.
Hein. On n'a jamais le chiffre exact d'un génocide et c'est justement un des éléments du négationnisme, c'est de discuter sur le nombre de morts avec une insolence épouvantable. On oublie que 6 millions de morts, c'est 6 millions d'individus, et on en rajoute 100 000 ou on en retire 100 000, et on ne se rend pas compte de la douleur que l'on manipule en évoquant cela. Bon, il est certain qu'il y eut au moins 800 000 morts au Rwanda. Une approche parle de 1 million, mais on n'a pas chiffré les morts. Ce qui est certain aussi, c'est que ce meurtre a eu lieu en 100 jours et que, en fait, dans les 4 premières semaines, 80% des victimes ont été tuées. Car dans l'évolution du processus génocidaire, il faut tenir compte de la seule manière de sauver les Tutsis, qui était la progression du FPR à travers le Rwanda qu'il va conquérir en 100 jours. Et donc toutes les zones où le FPR a progressé vont être protégées. Au contraire, les zones qui étaient à distance du FPR vont être entièrement vidées de Hutus en quelques semaines, parfois quelques jours. Alors il y a aussi un décalage avec des régions où le préfet refuse avant d'être lui-même démis et assassiné, comme dans le sud à Butaré. Donc il y a une géographie des massacres, mais les chiffres n'exigeons pas une précision. Lorsque 10 000 personnes sont tuées en un même endroit, évidemment, on ne va pas vous donner les noms.
Alors, vous le disiez avant la pause, hein, il y a une organisation machiavélique du massacre, du génocide, c'est-à-dire que juste après l'attentat, qui est donc le détonateur, les troupes sont organisées et tuent. Alors, ils ont plusieurs stratégies, il y a trois stratégies. La première, c'est d'avoir des listes à partir des cartes d'identité, où on sait qui est Tutsi, qui est Hutu, enfin en l'occurrence les Tutsis qui les intéressent. Et puis également, une manière de procéder qui permet de rassembler les foules avant de les tuer en grand nombre.
En fait, les foules se rassemblent elle-même, se rassemble elle-même dans les églises. L'église comme lieu de protection traditionnel, on ne pensait pas, on avait oublié le génocide arménien, et les massacres arméniens d'ailleurs, où les massacres ont eu lieu massivement dans des églises, mais l'église c'est le lieu de protection. Et c'est justement là qu'ont lieu les massacres de masse les plus importants, qui ont lieu à la mitraillette, au revolver, à la grenade, donc avec des armes à feu. Et les barrages, effectivement, empêchent tout déplacement des Tutsis, car on ressort la carte d'identité et l'on tue immédiatement sur place. Quant aux massacres individuels, ils ont lieu dans deux contextes différents. D'abord, par des milices. Et ça, je pense que Georges pourra développer la notion de milice, c'est-à-dire de tueurs intermédiaires, de tueurs professionnels dans le cadre d'un génocide. Et ils ont lieu également avec la participation de la population. Population ameutée littéralement par ces milices d'une part et par la radio des Mille Collines, auxquelles ont été distribuées des machettes et qui vont mener des véritables chasses à l'homme. Donc en fonction des territoires, de la disposition géographique des territoires, existence de marais, existence de forêts, certaines chasses à l'homme pourront aboutir à des survies, et quand tout est plat, quand les collines sont nues et qu'on ne peut pas se cacher, à la mort de tout le monde. Donc il y a effectivement des groupes de tueurs différents, mais il y a toujours, venu d'en haut, l'ordre de tuer tous les Tutsis, et en particulier aussi les enfants. Il y a des écoles où le maître d'école lui-même va tuer ses élèves Tutsis. L'horreur est partout. On voit des prêtres et des religieuses participer au massacre ou livrer les personnes qui se sont réfugiées dans des monastères. Il y en a d'autres qui paieront de leur vie leur générosité. C'est une véritable explosion de tout un pays dans des mois d'apocalypse.
Alors que pourtant, ce sont leurs voisins. Enfin, ils sont parfois, ils sont même amis, ils en viennent à tuer leurs propres connaissances, leurs propres voisins de palier. Georges Bensoussan.
Ça renvoie à d'autres situations génocidaires, et entre autres durant la Shoah, vous avez énormément de tueries qui sont commises par les voisins. On connaît bien l'exemple polonais de Jedwabne, mais des Jedwabne, il y en a eu des dizaines et des dizaines en Roumanie en particulier, ou en Ukraine, où des Roumains de base ou des Ukrainiens de base ont tué des gens avec lesquels ils vivaient, souvent d'ailleurs en bonne entente, d'abord et avant tout pour leur voler leurs biens, en les réduisant à un état infrahumain avant de les tuer dans des conditions atroces. C'est en général entre voisins que les crimes les plus atroces peuvent se perpétrer.
En évoquant la survie,
entre lointains.
Qu'est-ce qui justifie ?
Il y a toujours à l'origine, en amont, un discours diabolisant, un discours apocalyptique, un discours génocidaire qui prépare les consciences à franchir le pas à un moment donné. Ça, c'est l'un des éléments du crime. Il y a d'autres éléments du crime qui font que la transgression du meurtre, ne peut être commise qu'en groupe. Elle ne peut pas être commise individuellement. C'est ce qui fait que la cruauté est rarement un acte individuel, c'est d'abord un acte social. Et donc, ces groupes de tueurs se sentent d'autant plus solidaires, d'autant plus vivre ensemble, d'autant plus confortés dans leur identité, qu'ils vont transgresser ensemble, qu'ils vont tuer ensemble. Ça conforte l'identité et ça crée même une émulation dans le crime qu'on a du mal à imaginer, parce qu'on a l'impression, nous, que d'emblée, le crime va susciter de la répulsion. C'est peut-être vrai au départ, parce qu'il y a des problèmes de conscience qui se posent, mais au fur et à mesure que le crime est perpétré, c'est au contraire les tabous qui tombent les uns après les autres, et la conscience identitaire de plus en plus forte, de plus en plus revigorée, va se renforcer encore dans le crime perpétré en commun.
Se rassembler devant un ennemi, un même
Absolument.
Ennemi.
Absolument.
Yves Ternon.
Je voudrais ajouter à propos de la machette dont on a fait le seul instrument du meurtre, alors que ce n'est pas vrai, la notion de couper qui est attachée à la machette. On ne va pas tuer les gens, on va les couper. On va les couper parce qu'ils sont grands dans l'imaginaire. Rwandais, le Tutsi est plus grand que le Hutu, donc on va le réduire, on va le couper. Et il y a, on a suffisamment de récits de survivants pour savoir que l'argent dont pouvait disposer un Tutsi lui permettait seulement de négocier une balle contre un coup de machette. Donc il y a une sorte d'explosion de haine qui a quand même sa logique. On est vraiment dans le désordre paranoïaque du génocide où toutes les valeurs sur lesquelles nous reposons, nous vivons ensemble, ont totalement disparu et on se trouve dans des logiques nouvelles comme celle de Coupé que je veux là souligner.
J'ajoute là-dessus qu'il y a d'une part un discours paranoïaque qui prépare les consciences parce qu'il diabolise totalement autrui en faisant un cafard, un cancrelat, etc. Celui qui vous empêche d'être heureux sur la Terre. Et au-delà de ce discours diabolisant et de ce discours paranoïaque qui consiste à dire c'est eux ou nous, et si nous ne les tuons pas, eux vont nous tuer, que vous retrouvez dans l'Allemagne nazie. Si la minorité juive n'est pas mise à mort, ce sont eux qui se vengeront demain sur nos enfants. Vous avez tout le poids, tout le moteur très sous-estimé en histoire du ressentiment. Et le ressentiment en histoire, ça a une force explosive extraordinaire, d'où ce que dit Yves à l'instant sur le terme coupé. Ce sont ceux-là qui nous dépassent, ceux-là qui nous méprisent, cette aristocratie qui nous tient la dragée haute depuis tant d'années, ces grands par rapport à nous, les petits, nous allons les couper, nous allons les réduire, nous allons leur montrer, dans le fond, que nous avons nous aussi le droit de vivre. Il y a tout un discours du ressentiment qui a une force génocidaire qu'on ne soupçonne pas assez, en tous les cas qu'on ne met pas assez en lumière en histoire.
Comme vous le disiez, c'est un génocide qui s'est préparé hein, sur plusieurs décennies. J'imagine que les Tutsis sentaient le vent venir. La question qui se pose souvent, comme dans tous les génocides, c'est savoir si les Tutsis, en tout cas les victimes, ont réagi contre. Est-ce qu'ils se sont laissés faire, voilà, pour lâcher le mot.
Yves Ternon. L'abominable sujet des moutons et de l'abattoir. Quand on se trouvait en avril 1994 au Rwanda, frontière fermée, dans des collines où tout le monde connaît tout le monde, où il n'y a pas lieu de refuge, où toutes les routes, tous les chemins sont barrés, on sait qu'on va mourir. Et cela, il y a des témoignages bouleversants de survivants qui rappellent combien, à la veille du génocide, ou le jour même, les jours où le génocide a commencé, la famille se réunit, et je me souviens ce geste qu'évoquait Yolande Moukassavana, de l'oncle qui prend une poignée de poussière, et qui souffle, en disant il y aura peut-être des grains qui vont pouvoir survivre. Donc ils savaient qu'ils allaient mourir, et il n'y avait aucune possibilité, si ce n'est de se réfugier chez un voisin Hutu, mais on assiste justement à une catégorie nouvelle de sauveteurs-tueurs, c'est-à-dire de sauveteurs qui vont souvent tuer pour les déposséder ou bien parce que ça suffit, ou les gens n'ont plus d'argent, les personnes qu'ils ont cachées, ou qui sont en train de tuer d'autres personnes, mais qui protègent quand même un voisin. Donc
il n'y a plus de
repères. Et puis, le lieu de protection le plus fréquent, c'est le toit des maisons. Le toit des maisons, comme il y a en général un double toit pour protéger de la chaleur, on se réfugie sur le toit. Je connais de nombreuses personnes qui sont restées 6-8 semaines avant l'arrivée du FPR dans des toits, mais les tueurs en arrivant lançaient des coups de mitraillette dans les toits. Donc les possibilités de survie étaient extrêmement réduites.
Le génocide a duré 10 semaines, il s'est poursuivi au Zaïre ensuite.
Non, on ne peut pas dire qu'il s'est poursuivi au Zaïre, dans la mesure où une opération a été menée par les Hutus quand ils ont été conscients de leur désastre, du désastre, où ils ont évacué la majorité de la population en leur disant « le FPR va vous assassiner ». Donc, migration prise en charge par les médias internationaux, choléra au Zaïre, et effectivement à l'intérieur des camps, présence des génocidaires en grand nombre, et volonté de retour, effectivement, pour punir ou continuer le travail au Rwanda, mais on n'est plus dans le contexte du génocide. Le génocide, c'est un temps très précis. Ce n'est pas parce qu'il y a des meurtres avant ou des meurtres après que l'on se trouve dans cette période d'apocalypse qu'est le temps du génocide, c'est du moins mon avis.
Venons-en, si vous voulez bien, au rôle de l'ONU. L'ONU était présent, il y avait des casques bleus qui appartenaient à la MINUAR, qui étaient là pour une durée limitée et qui sont partis la veille du génocide. Et je crois que la personne qui gérait tous ces casques bleus avait prévenu le secrétaire général de l'ONU que quelque chose se tramait. Et le secrétaire général lui a dit « Parlez-en au président ».
Oui, tout à fait. Roméo Dallaire, qui commandait les troupes de la MINUAR, c'est-à-dire des forces de l'ONU au Rwanda, Roméo Dallaire avait prévenu dès janvier 1994 qu'un génocide était en préparation. Bon. Et il a lancé plusieurs fois l'alerte auprès du secrétaire général de l'époque, qui ne l'a pas pris au sérieux. Et on sait l'enlisement, dans la revue on en parle assez longuement, il y a un très bel article de Joël Kotek d'ailleurs là-dessus, il y a eu un enlisement complet de l'ONU et qui a montré une fois de plus son inefficacité. Dès qu'il y a eu les premières violences, les premiers troubles, les troupes de la MINUAR, au lieu de rester et d'intervenir sur le terrain, sont parties. Elles ont eu exactement la même attitude qu'un an plus tard à Srebrenica, où les troupes des casques bleus hollandais sont parties en laissant la population civile, c'est-à-dire les hommes en l'occurrence, à la merci des tueurs serbes. Bon. Donc ça pose réellement le problème de l'efficacité de l'ONU, mais au-delà de l'ONU, je pense qu'Yves va rebondir sur la question de l'ONU et la développer sans doute, il y a la question des réactions occidentales au moment du massacre.
J'imagine
Ça a été très médiatisé. On se souvient
par la
par la télévision, il y avait déjà beaucoup d'images, mais on se souvient que dans certains grands journaux comme Le Soir en Belgique ou Le Monde en France, il y avait des articles, je pense au Monde, des articles de Rémi Ourdan, dès les premières semaines du génocide, qui montraient clairement qu'il s'agissait d'un génocide et non pas d'un massacre. Il ne fallait pas être grand clair pour comprendre ce que écrivait Rémi Ourdan, qui était un journaliste lambda, qui était sur le terrain et qui disait clairement, en temps réel, ce qui était en train de se passer. Donc la question est la suivante, pourquoi, si nous, simple Pékin, de base, si lui, simple journaliste lambda, était conscient qu'on avait affaire à un génocide tropical, c'était une expression qui avait été déjà employée, pourquoi est-ce que les États, les grands États, qui étaient la conscience de ce monde, ont refusé d'employer le génocide, le mot génocide? Parce qu'ils savent très bien, vu les conventions signées à l'ONU, qu'employer le mot génocide impliquait un devoir d'ingérence, impliquait un devoir d'intervention, et c'est ce qui explique, entre autres, en France, mais pas seulement, aux États-Unis, le président Clinton de l'époque s'est refusé jusqu'au dernier jour à employer le mot génocide, alors que c'était le seul mot qui convenait dans la situation.
Pourquoi ? Pourquoi avoir fermé les yeux ?
Précisément pour éviter à intervenir, pour éviter d'avoir à intervenir. Alors que pendant le même temps, et on doit quand même le noter, nous sommes en 1994, le président Clinton vient d'inaugurer l'Holocaust Memorial de Washington, où à grands cris, à grands renforts évidemment de publicité, on commémore la mémoire de la Shoah. Et au moment où est perpétré le génocide du Rwanda, le premier ministre de l'époque en France, Édouard Balladur, est en visite solennelle à Auschwitz, où là, il proclame encore une fois la nécessité du devoir de mémoire. Et là, on peut réellement se poser la question, visite à Auschwitz d'un côté, inauguration de l'Holocauste Mémorial de Washington de l'autre, à quoi sert le devoir de mémoire si, dans les situations pré-génocidaires, nous n'alertons pas, nous n'alarmons pas et nous n'intervenons pas? Or, c'est exactement ce qui s'est passé. D'où notre inquiétude aujourd'hui, en 2009, sur les situations qui sont réellement pré-génocidaires dans le monde.
Oui, quand on analyse étroitement les événements et l'implication de l'Occident dans ce génocide, il faut dire plusieurs choses. D'abord, le général Dallaire, avec les faibles troupes réduites d'ailleurs après l'assassinat des parabelges en même temps que celui de la première ministre rwandaise, a quand même sauvé plusieurs milliers de Tutsis, en particulier à Kigali, dans le stade et dans une école. Bon, donc il y avait possibilité de sauver des gens quand on les regroupait, comme il y a eu aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, des sauvetages dans des monastères ou bien dans des écoles. Mais dans cette situation de confusion extrême, il est évident que l'Occident a failli complètement. Les États-Unis ne sont pas intervenus pour une raison très simple, c'est qu'il y avait l'expérience de la fameuse histoire de l'hélicoptère du Faucon Noir à Mogadiscio quelques années avant, et qu'ils avaient peur de se retrouver encore dans un conflit où des soldats américains allaient disparaître.
C'est une question de coût ? Enfin, pardon, je vous coupe, mais c'est une question d'argent ?
Non, ce n'est pas une question de coût, c'est une question de responsabilité vis-à-vis de la société américaine. Non, c'est tout. On avait peur d'intervenir une nouvelle fois, car il faut dire effectivement que dans la perception des menaces génocidaires, le contexte politique joue. Et c'est extrêmement compliqué. Comprenez ce qui se passe au Darfour aujourd'hui. On a manifestement une menace génocidaire. hein, qui n'est pas dans les mêmes conditions, qui est au long cours, mais il y a des populations qui sont en danger de mort. Or, quand la communauté internationale, par la Cour pénale internationale, intervient et demande qu'il y ait mise en accusation du président soudanais, celui-ci réplique en interdisant, en expulsant la plupart des missions humanitaires, ce qui va entraîner de facto la mort d'un certain nombre de personnes. Donc on est piégé effectivement dans ces possibilités de prévention d'un génocide dans la mesure où les rapports politiques ne sont pas positifs. C'est ça le problème. Il y avait au Rwanda une possibilité indiscutable par une intervention des grandes puissances, en particulier des États-Unis, mais surtout de la France, de bloquer complètement tout le processus génocidaire et immédiatement. On en a plusieurs exemples. Ça n'a pas été fait. C'est ça la responsabilité. Bon, on veut bien que quand on tue en Tchétchénie, on ne va pas déclarer la guerre à la Russie. On veut bien que dans telle ou telle circonstance, on n'envisage pas de mettre en cause les grandes relations internationales avec la Chine ou le Pakistan. Mais dans une situation génocidaire aussi précise, aussi claire, aussi évidente, aussi annoncée, le fait de ne pas être intervenu, ça, c'est une faute des organisations des États-Unis.
Et une commission d'enquête indépendante avait conclu qu'avec 5000 casques bleus, on aurait pu éviter le génocide. Les bourreaux ont-ils été traduits en justice aujourd'hui, Yves Thermon ?
Oui, alors il y a différents niveaux. Les bourreaux, il faut les classer. Mm-hmm. Hein, il y a les responsables, ceux qui n'ont pas tué de leurs mains, mais qui ont tout orchestré. Ceux-là, pour une bonne part, ont été jugés par un tribunal qui est situé à Arusha, un tribunal pénal international pour le Rwanda, équivalent de celui pour l'ex-Yougoslavie, et qui a jugé peu de personnes, qui les a jugées dans des conditions peut-être un peu discutables au début, mais qui quand même a apporté des preuves et surtout des documents pour les historiens. Chaque procès représente environ 10 000 pages hein, qui peuvent être consultées. Donc il y a un travail de mémoire qui va pouvoir se faire pour les responsabilités des chefs à partir du tribunal pénal international. Mais aussi, ça a été l'occasion de montrer les difficultés de fonctionnement de ces tribunaux avec les argumentations des avocats qui sont franchement négationnistes, avec la mise en péril des victimes, des témoins plus exactement, qu'on vient chercher en voiture dans leur village et qu'ensuite on dit protégés, mais tout le monde sait qu'ils ont été témoignés. Et on a été obligé de faire témoigner des personnes à visage couvert ou bien
parce qu'ils cohabitent avec leurs assassins
et on continue à tuer des témoins éventuels sur les collines. Donc complexité de ces jugements. Deuxième élément. Au Rwanda, on a institué des jugements traditionnels de l'État rwandais qui ont abouti à un certain nombre de catastrophes, dans la mesure où on a rempli les prisons de milliers et de milliers de personnes avant leur jugement, et on s'est aperçu qu'il aurait fallu quelques décennies pour régler ces problèmes, ces jugements. Donc, on a institué quelque chose de très original, qui est les juridictions gachacha. Gachacha, ça veut dire gazon, donc en kinyarwandais, ce sont les juridictions qui se produisent dans les collines, dans les petits regroupements, et où les accusés, habillés en rose, sont mis en accusation par des gens qui leur demandent ce qu'ils ont fait, d'avouer ce qu'ils ont fait. Ça aboutit à des condamnations très relatives, mais ça a le mérite de permettre de découvrir des charniers. Et c'est ça qui est important pour les victimes, c'est-à-dire les gens ne savent pas où on a mis leurs morts, et grâce aux juridictions gachacha, on commence à les connaître. Il y a un article très important d'Hélène Dumas, qui prépare d'ailleurs une énorme thèse sur les juridictions gachacha. Elle a le mérite de parler le Kinyarwanda, et qui va vraiment permettre à un public européen comme nous de comprendre la complexité du jugement d'un peuple qui a massivement participé aux tueries.
Aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de Tutsis. Est-ce que la menace est réelle de tuer les derniers Tutsis qui restent au Rwanda ?
Le Rwanda offre cette particularité dans toutes les situations génocidaires du XXe siècle, de voir les assassins et les victimes coexister. Et comme Yves le rappelait à l'instant, il y a pratiquement chaque semaine des meurtres de Tutsis. Ça passe totalement inaperçu en France, mais on le sait parce qu'on a préparé ce numéro avec toute une équipe rwandaise qui nous ont tenus au courant qu'il n'y a pas une semaine sans un drame épouvantable. Donc la vraie question, c'est celle que vous posez, est-ce qu'il y a un avenir pour le Rwanda ? Est-ce qu'il y a un avenir pour la minorité Tutsi dans ce pays ? À lire les témoignages, à lire les textes, on peut parfois en douter.
Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il y a un troisième groupe dont on ne tient pas compte, qui est majoritaire Tutsi, c'est-à-dire le FPR, a amené avec lui non seulement des militaires, mais le retour de toute la population qui voulait revenir. Donc des centaines de milliers de personnes qui constituent l'essentiel de la population rwandaise en accord avec le gouvernement. Et tout le problème, toute la problématique du gouvernement rwandais, et cette problématique est extraordinairement difficile à résoudre, c'est que on essaye d'établir un peuple rwandais qui a effacé son identité Hutu ou Tutsi. Mais quand on fait appel au passé récent du génocide, on est bien obligé de rétablir cette identité Hutu ou Tutsi. Or, actuellement, l'évolution démographique et économique est telle que la majorité des pauvres, des gens qui vivent dans les campagnes, sont des Hutu de jadis et que les personnes les plus aisées qui vivent dans les villes sont des Tutsis revenus avec le FPR. Donc une complexité de la population, avec ce troisième groupe véritablement brisé que sont les rares survivants, qui montre la difficulté pour le gouvernement rwandais d'écrire l'avenir.
Merci, Sternon, Jean-Ben Soussan. Pour terminer, vous souhaitiez parler du négationnisme. Est-ce que le Rwanda, aujourd'hui, nie son passé, Yves Sternon, son passé proche?
Oui, le négationnisme est tissé avec le génocide. On n'imagine pas de génocide, même si ce n'est pas inscrit dans le texte juridique.
Est-ce que le terme génocide est employé, par exemple, au Rwanda?
Oui, bien sûr, il est employé tout le temps au Rwanda par les officiels. Mais ce que je veux dire, c'est que le génocide est nié obligatoirement, non seulement par ceux qui l'ont perpétré ou par ceux qui en sont les héritiers, mais par ceux qui défendent l'idéologie qui conduit au génocide. Et donc la spécificité du négationnisme au Rwanda, c'est comme l'a dit Georges tout à l'heure, le discours du double génocide. Génocide des Tutsis contre les Hutus, des Hutus contre les Tutsis. Mais c'est aussi le discours négationniste, par exemple, pour les Arméniens. L'État turc, qui est donc le seul cas de négationnisme d'État actuellement connu, se répand en accusation d'un génocide perpétré contre les Turcs par les Arméniens. Donc la négation peut employer toute l'absurdité possible, ça passe, d'autant plus qu'avec le développement d'Internet, on peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, les choses les plus énormes passent. Et on peut résumer toujours ce mot du négationnisme avec la formule du Witz. Il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, s'ils ont été tués, c'est bien de leur faute.
Georges Mensoussan, pour le dernier mot de la fin.
C'est tout à fait ça. Je pense qu'il va très bien résumer le paradoxe et l'absurdité du propos du négationnisme. Et sur Internet, un dernier mot pour rebondir. C'est sur Internet aujourd'hui que se préparent les discours génocidaires. Et là, on n'a pas assez fait attention combien c'est une véritable poubelle de tous les fantasmes, de tous les délires assassins. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, on peut craindre, dans des situations très précises, d'avoir affaire à une préparation lente à des situations qui pourraient demain s'avérer tragiques.
Merci Georges Bensoussan, merci Yves Ternon. Je rappelle la revue d'histoire de la Shoah, le numéro 190, donc, qui couvre la période janvier-juin 2009 et qui s'intitule donc « Rwanda, 15 ans après, penser et écrire l'histoire du génocide des Tutsis » avec beaucoup de contributions. La moitié sont des historiens rwandais. Bien sûr, votre contribution également, Georges Bensoussan, ainsi que la vôtre, Yves Ternon. Merci beaucoup.
Merci à vous.